Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiaque, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Salut Louis Amar, bienvenue à bord.
Merci. À la une ce dimanche, la Formule 1 Grand Prix de Belgique dans 2 heures en direct sur RMC. Hamilton en pôle, 2 Français dans le top 5. Nous serons à Spa-Francorchamps dans quelques instants. Et puis à 13h45, Radio Paddock avec de la moto, du rallye et de l'IndyCar. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Jean-Luc, c'est donc l'événement de ce week-end, la reprise de la Formule 1 après 3 semaines de trêve estivale, 13e manche de la saison, Grand Prix de Belgique, au classement général provisoire. Lewis Hamilton est en tête avec 24 points d'avance sur Sébastien Vettel de Ferrari. Raikkonen, Bottas, Ricciardo complètent le top 5. Le premier français, c'est Esteban Ocon, il est 12e. Dans un instant, on file à Spa-Francorchamps. Juste un mot d'abord, Jean-Luc, sur ce tracé, cette course, ce Grand Prix que tous les pilotes adorent.
Écoute, oui, c'est le préféré, unanimement, de tous les pilotes et depuis très longtemps. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est très vallonné, donc c'est un circuit le plus long de la saison, plus de 7 km pour quelques mètres près. Il en faisait le double avant, il en faisait 14, mais pour des raisons de sécurité, il passait dans des villages d'ailleurs, on l'a raccourci il y a plusieurs années. Et c'est, je dirais, l'exemple type du circuit qui a su évoluer avec son temps pour assurer des conditions de sécurité, et je touche toujours du bois en disant ça, optimal, tout en gardant un côté sélectif, bah, le fameux raidillon de l'eau rouge que tu connais par cœur, les courbes de retour, Blanchimont, etc., qui passe à plus de 300. Donc, il combine à la fois le côté technique avec le réglage d'une monoplace. Il combine le courage, moi j'y tiens toujours, pour les pilotes. On peut dépasser également avec la longue ligne droite de Kermen après, justement, ce raidillon de l'eau rouge. Et puis, un côté imprévu et improbable, parce que la météo peut s'en mêler, comme ce fut le cas en qualification hier. Donc, tout vraiment peut arriver à Spa, et on ne couronne que des grands pilotes à Spa.
Et pour toi, ce Grand Prix, ce circuit n'a rien perdu de son mythe.
Il n'a rien perdu de son mythe, donc une nouvelle fois, c'est la preuve qu'on peut le faire. C'est-à-dire que malheureusement, moi ce que je reproche carrément à beaucoup de circuits aujourd'hui, c'est d'être émasculé, d'avoir été malheureusement détruit, comme le disent les pilotes eux-mêmes. Je n'invente rien, Lewis Hamilton est le premier à dire, moi je préfère faire un tour à Donington, sur un circuit qu'avait utilisé pour la F1, il y a plus de risques, de dangers et de talent. On peut mieux exercer son talent de pilote que sur l'ensemble du championnat du monde. Bon, il exagère un peu évidemment pour démontrer ce qu'il veut dire, mais oui, Spa, et j'y adjoindrai Suzuka, si tu vas bien, au Japon, qui est également un circuit de la même espèce, le fameux circuit en 8, tu sais, propriété de Honda. Voilà les deux exemples à suivre. Alors, il y en a d'autres qui sont pas mal. Austin, par exemple, au Texas, est un très bel exemple. D'ailleurs, comme par hasard, ça reprend une partie des circuits, notamment de Silverstone, et j'allais rajouter Silverstone. Mais Spa, c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est celui où les pilotes se font le plus plaisir.
Hier, c'était donc les qualifs de ce Grand Prix de Belgique. On y revient tout de suite.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Il a bravé les bouchons, il a bravé la pluie, il a surtout bravé les supporters flamands. C'est Lucas Vinois, notre envoyé spécial à Spa-Francorchamps. Bonjour Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc, salut à tous.
Comment ça va Lucas à Spa ?
Bah très bien, il fait beau pour l'instant, mais on va pas trop se mouiller parce que comme le disait Jean-Luc, ça peut changer extrêmement vite ici dans les Ardennes belges. Alors pour l'instant il fait beau, mais peut-être que dans 2 heures au moment du départ du Grand Prix il pleuvra. Donc pour l'instant il fait beau, mais peut-être que ça changera. On ne se mouillera pas, on ne donnera pas de pronostics puisque on sait comment ça se termine à chaque fois qu'on donne des pronostics sur la météo.
D'autant plus que comme tu le rappelais tout à l'heure, Jean-Luc, c'est le tracé le plus long de la saison et il peut parfois pleuvoir dans certaines portions et pas dans d'autres, ce qui pose de sérieux problèmes de stratégie aux pilotes et aux écuries.
Évidemment, on l'a vu hier donc en qualif où on s'est un peu raté du côté de Ferrari avec Raikkonen, on s'est raté également un petit peu chez Red Bull, et puis c'est un circuit long, donc il faut du carburant pour faire le tour, ça paraît tout bête, mais effectivement on rappelle qu'il n'y aura que 44 tours à parcourir, et c'est logique, puisque tu sais que la longueur moyenne d'un Grand Prix, je dis bien longueur, pas durée, c'est 305 à 310 km, à part Monaco bien sûr où c'est 260, donc eh bien c'est très simple, on découpe par la longueur du circuit, et on voit qu'il n'y aura que 44 tours, alors comme tu le disais, il va y avoir des choix. Si jamais, et moi je le souhaite toujours, tu sais, parce que ça brouille les pistes et les cartes, s'il se met à pleuvoir à un moment donné de la course, sur une partie seulement du circuit, on va se régaler. On va voir quels sont ceux qui réagissent le mieux, et puis on va voir qui sont les meilleurs pilotes, comme on l'a vu en qualif.
Lucas, on compte sur toi pour la danse de la pluie. Un mot de l'ambiance quand même à Spa-Francorchamps, parce que c'est un des grands prix où il y a toujours énormément de monde, énormément d'ambiance. Raconte-nous ce que tu as pu ressentir depuis que tu es en Belgique, depuis que tu es arrivé en Belgique il y a quelques jours.
Bah c'est la marée orange, un petit peu comme en Autriche avec Max Verstappen, les supporters néerlandais qui sont venus nombreux soutenir leur pilote qui est quand même un petit peu en difficulté ce week-end. Hein. On le développera tout à l'heure hein, puisque ouais. Ça ne marche pas très bien pour la Red Bull, mais en tout cas ils sont toujours là, ils sont toujours heureux, toujours contents, toujours prêts à soutenir leur pilote quelles que soient les circonstances. Et bien évidemment ils mettent l'ambiance dès très tôt le matin sur le circuit de Spa-Francorchamps.
Jean-Luc, si je te dis 1:58.179, qu'est-ce que tu me réponds?
Eh ben, que c'est un très joli temps et que ça tombe bien. C'est le temps réalisé par Lewis Hamilton sous la pluie. On rappelle qu'on avait été beaucoup plus rapide, hein, sur le sec et c'est normal. On a même battu le record absolu du circuit. Tiens, pour la petite histoire, tu sais que on était venu chez Porsche avec une machine d'endurance, enfin, ex-endurance, et on avait essayé d'établir le meilleur temps absolu. On avait été plus vite que la F1 l'an dernier. Eh bien, là, ça y est, la F1 a repris la main sur le sec. Mais 1:58.179, ben, ça permet à Hamilton, avec un tour, il a insisté là-dessus qui n'était pas évident, même pour lui, oui. Parce qu'évidemment, quand un pilote comme lui aligne l'épaule, et là, c'est vraiment dans sa carrière, c'est quelqu'un qui en a totalisé
78,
c'est ce que je cherchais, tu as raison, 78, je ne veux pas me tromper d'une, donc c'est absolument ahurissant, il est en tête du palmarès absolu. On a l'impression que oui, c'est la routine, il n'y a pas de problème, il les aligne, non, il a dit lui-même, même pour moi, enfin, surtout pour moi, parce qu'il est modeste, et ben ça a été très difficile, et d'ailleurs, il s'était loupé au tour précédent, il s'était loupé au virage numéro 1, virage numéro 12. Ben, il faut arriver à mettre tout le tour ensemble, et ça, c'est pas évident.
Il est, tu l'as dit, le prince incontesté de cet exercice. Mais qu'est-ce qui fait sa force sur un tour, Lewis Hamilton? Est-ce que ce sont des capacités purement techniques de pilote, ou est-ce que c'est qu'il a un mental plus robuste, plus résistant que celui de ses adversaires?
Ça, c'est clair. Comme tu le soulignes, il ne fait pas d'erreur, Lewis Hamilton. Contrairement à Vettel, encore une fois, on va pas lui taper sur le casque toute la saison, mais quand même, il s'est loupé au Nürburgring, devant son public. Il était en tête, il s'est mis à pleuvoir. On était en plus à vitesse réduite. Il se loupe, il sort. Il offre 25 points sur un plateau à son adversaire direct. Et tu vois, il y a 24 points de différence au championnat, t'as compris. Sans cette erreur, eh bien Hamilton en aurait totalisé moins. Et Vettel, évidemment, beaucoup plus. Il sera en tête du championnat. Donc, Hamilton ne commet pas d'erreur, pour répondre à ta question. Et puis, il est capable, et là aussi, sur un tour comme celui de Spa, de mettre toutes les parties ensemble. Et ça, c'est pas évident. Près de 2 minutes, rester concentré, rester exactement juste sur l'équilibre, sans en faire trop pour pas bloquer les roues et sortir de la piste, sans en faire pas assez pour sécuriser, ben ça c'est le talent d'un quadruple champion du monde, et effectivement il est impressionnant, et je pense que Vettel aussi doit s'en rendre compte dans ces conditions-là, où sa Ferrari n'était pas inférieure à la Mercedes, hein. C'est vraiment le pilote qui a fait la différence.
On va l'écouter justement, Lewis Hamilton, évoquer cette pole position conquise sous la pluie, dans des conditions difficiles.
C'est la situation la plus difficile à gérer lorsqu'il se met à pleuvoir. Vous êtes à très haute vitesse, il peut y avoir un léger crachin et dans la voiture on a l'impression qu'il pleut beaucoup. Alors quand vous arrivez dans un virage, vous préférez ne pas ralentir et finalement le virage est sec. À d'autres endroits, vous n'avez pas d'eau sur la visière, mais en réalité la piste est complètement mouillée. Essayez de trouver la limite pour chaque virage, je ne sais pas trop comment nous faisons, nous y arrivons parce que nous devons le faire, mais c'est un peu le génie du cerveau humain.
Le génie du cerveau humain, Lewis Hamilton au micro de Lucas Vinoy. Lucas, comment tu l'as trouvé le Britannique hier lorsqu'il est arrivé en zone mixte? Parce que parfois il est un petit peu lunatique, il peut d'un jour à l'autre être très loquace et puis plus du tout. Comment il était hier?
Il était plutôt serein et très content d'avoir conquis cette pole position, et puis il reconnaissait un petit peu cette chance qui le suit, qui l'habite, puisque ici les Ferrari étaient censés encore être meilleures, plus performantes, comme à Budapest en Hongrie sur le sec, et il s'est mis à pleuvoir, et il sait, Lewis Hamilton, il le sait, c'est le meilleur dans ces conditions-là. Il prend un avantage sur la piste, mais aussi psychologiquement, puisque dans sa tête il le sait qu'il est meilleur que les autres, il arrive à trouver la limite, donc il était très content. longtemps, mais il sait qu'il y a encore une course. Il y a 44 tours à couvrir et il peut se passer toujours beaucoup de choses ici sur le circuit Spa-Francorchamps.
Lewis Hamilton qui partira donc en pole position dans un petit peu moins de 2 heures maintenant. 15h10, départ du Grand Prix de Belgique, à suivre évidemment en direct, en intégralité sur RMC, la radio de la F1. Vous en avez l'habitude avec Jean-Luc et avec Lucas Vinoy. On salue d'ailleurs Adrien Tambay.
Oui, il est
au Japon.
Avec
nous, qui est au Japon en ce moment, à Suzuka, sur un circuit d'homme, et il reviendra très vite avec nous. Juste derrière Lewis Hamilton, messieurs, il y aura Sébastien Vettel. Je me tourne tout de suite vers toi, Lucas. Comment Ferrari a réagi hier après la pole position de Lewis Hamilton, alors que la Scuderia semblait, en séance d'essais libres, avoir pris un léger avantage sur la Mercedes?
Chez Ferrari, on dit tout simplement que tout va bien, mais on le sait très bien que ça va pas bien. Il y a 24 points de retard. Sébastien Vettel préférait dire que le rythme de course de la Ferrari est normalement supérieur à celui de la Mercedes, tout simplement. Mais non, ça ne va pas bien, puisque lorsque Ferrari est meilleur sur un circuit et doit prendre des points à Mercedes, c'est le cas de Vettel par rapport à Hamilton, il n'y arrive pas. Donc c'est un peu la soupe à la grimace chez les Rouges, même si, bien évidemment, on veut pas montrer ce sentiment.
Jean-Luc, Ferrari hier a encore été plombé par des erreurs qui relèvent plutôt de l'humain.
Ben totalement, puisque effectivement, je le soulignais tout à l'heure, pour faire un tour de 7 km et 4 mètres, ben il faut du carburant, c'est tout bête, mais c'est paradoxal. Moi écoute, tu me permets de faire un peu d'humour caustique,
justement,
comme j'aime bien le faire. Quand on est une écurie comme Ferrari, quand même, ou Red Bull, hein, parce que c'est pareil, on n'est pas capable d'anticiper le fait que la piste va s'assécher, mais bon sang, mais moi je vais leur dire, non, je plaisante, mais tout le monde le sait, plus le passage des monoplaces répétées sur la trajectoire va assécher cette trajectoire, plus ça va avoir d'adhérence. Donc souvent le temps en qualif dans ce genre de situation, il se fait au-delà même du temps réglementaire. C'est-à-dire que les pilotes engagés, comme tu le sais, pour une seconde seulement dans le dernier tour, ont le temps de le boucler. Et la piste est à son maximum en termes d'adhérence. Donc comment peut-on ne pas mettre assez de carburant, et là je parle de Raikkonen ou des deux Red Bull, pour ne pas être capable d'effectuer ce tour supplémentaire qui aurait pu tout changer? Donc là aussi, bravo à Hamilton, bravo à Mercedes de l'avoir fait, et dommage pour les autres.
Mais et pour Vettel, c'était un problème de batterie.
Oui, alors ça c'est encore autre chose. Alors là, on entre, je vais pas, enfin dans Motors on peut y aller parce qu'il y a des techniciens pointus. Moi je ne comprends pas, avec les bataillons d'ingénieurs qu'on a pour tout surveiller en permanence, y compris à l'usine, parce que je rappelle, il y a pas seulement les 80 personnes qui sont présentes sur le circuit avec les données, les envois de données en temps réel, on a des centaines d'ingénieurs certainement qui travaillent tous les week-ends. On n'est pas capable de voir qu'effectivement on n'a pas bien rempli entre guillemets les batteries de la Ferrari de Vettel pour tenter ce tour là, mais c'est inadmissible. Et là aussi on voit les limites du pilote, puisque le pilote, lui, là il est tributaire de ce qu'on lui dit. Donc c'est bien cette Formule 1 qui dérive totalement, où là encore une fois, le talent des pilotes, malheureusement ne peut plus s'exprimer. Ça me rappelle, tiens, le premier Grand Prix de la saison, quand Hamilton était le meilleur, et puis tu sais, on a sorti un safety car, puis un virtual safety car, ou plutôt l'inverse, au mauvais moment pour lui, il était le meilleur, il a pas gagné. Là il y a un problème. Quand en Formule 1 le meilleur ne gagne pas, c'est qu'il y a un souci, et là, je trouve que c'est beaucoup trop complexe. Et quand tu penses qu'on est en train de discuter des règlements au-delà de 2021 et qu'on n'est pas foutu de s'entendre en Formule 1 au niveau du moteur, là il y a un vrai souci et faut tirer la sonnette d'alarme comme je le fais depuis des mois voire des années.
Lucas, est-ce que hier après la qualification, Sébastien Vettel était remonté contre son équipe, ou en tout cas est-ce qu'il a laissé transparaître une forme d'agacement?
Non, il était stoïque, hein. Sébastien Vettel, il n'a pas laissé transparaître une forme d'agacement. Il était plutôt serein. Enfin, en tout cas, il se montrait serein, Sébastien Vettel. Alors après, le problème de batterie, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une excuse aussi pour dire qu'il n'a pas été battu à la régulière par Lewis Hamilton une deuxième fois d'affilée dans des conditions de piste difficiles? C'est toujours difficile, en tout cas, de savoir la vérité dans ces conditions-là. Mais bon. En tout cas, Sébastien Vettel le sait, il y a une course. En course, normalement, le rythme de course de la Ferrari est meilleur que celui de la Mercedes et il espère bien dépasser Lewis Hamilton au sommet du raidillon, ou alors en arrivant au comble au bout de la ligne droite. Tout est à faire, une deuxième place, ce n'était pas si mal, disait-il hier.
Et on va l'écouter justement, Sébastien Vettel, parler de la course à ton micro.
Nous allons voir ce qu'il est possible de faire tout à l'heure. C'est une longue course. Je pense que nous étions dans le bon rythme hier. Il est difficile de dire qui de Ferrari ou Mercedes était plus rapide. Je crois que nous pouvons être meilleurs que Lewis Hamilton en fonction du départ et du premier tour, nous avisons.
Sébastien Vettel en deuxième position, donc derrière Lewis Hamilton. Esteban Ocon partira troisième. On reviendra dans une dizaine de minutes en détail sur tous nos Français. Ne vous inquiétez pas. Perez quatrième, Grosjean cinquième, Raikkonen sixième. On en a parlé à cause d'un problème de carburant. Et il faut redescendre jusqu'au septième et huitième rang pour trouver les Red Bull. Ça, Jean-Luc, les voir si loin, c'est déjà en soi une surprise.
Ah oui, une surprise et une déception, oui. Naturellement. Alors, on sait bien, et là, une fois de plus, je ne tape surtout pas sur le moteur Renault, mais qu'il est un petit peu inférieur actuellement,
oui, c'est
au moteur Mercedes et Ferrari, on peut le dire. Donc c'est un circuit de moteur, nous l'avons dit, il y a cette montée terrible et puis cette longue ligne droite où l'on peut dépasser. Alors juste un tout petit bémol par rapport à ce que disait Sébastien Vettel il y a un instant, je vais pas le reprendre, mais il sait très bien que les deux premiers tours, il n'y aura pas le DRS puisqu'on l'actionne en direction
absolument
de course uniquement pour le troisième. Donc il peut essayer de le prendre entre guillemets par surprise, mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc j'en reviens à ta question concernant les Red Bull. Oui, c'est une déception et là aussi pas une histoire de carburant mal géré. Alors là, c'est moyen quand même. Parce que quand on a une monoplace dont on sait qu'elle est un petit peu inférieure à celle de ses adversaires, faut être plus malin. Et là, la stratégie qui consiste encore une fois à faire l'ultime dernier tour et même à calculer la progression, puisque tu sais qu'évidemment, les équipes, et même nous, on peut voir où sont situés exactement les pilotes sur le circuit, eh bien, on peut caler la progression pour avoir cet extra lap, si tu veux bien, extra dernier tour qui va être le meilleur. Bah, on aurait dû être malin chez Red Bull. On aurait dû jouer cette carte par la faute, semble-t'il, d'un manque de carburant, on l'a pas fait. Donc ça, c'est une faute stratégique.
Septième position, Max Verstappen, le Néerlandais, qui court quasiment à domicile, puisque sa maman est flamande, puisque c'est en Belgique qu'il a passé son permis de conduire. Mais il n'était pas très content hier de sa qualification. Écoutez-le au micro de Lucas Vinoy.
Lorsque j'étais au volant de la monoplace, nous étions plutôt performants, mais notre aileron arrière était un peu bas, ce qui n'est pas l'idéal dans des conditions de piste humide, et nous n'avions pas assez d'essence pour réaliser un dernier chrono rapide. Pour la course, nous allons devoir passer les Force India et les Haas, c'est le plus important pour nous, et ensuite nous verrons ce qu'il est possible de faire.
Juste derrière Max Verstappen, son équipier Daniel Ricciardo qui partira 8e. Lucas, c'est la première fois que Daniel Ricciardo revenait sur un Grand Prix depuis qu'on a appris son transfert surprise chez Renault. Vous savez qu'il était en fin de contrat, Ricciardo. Il a signé chez l'écurie française pour la saison prochaine. Comment tout cela a été accueilli dans le paddock? Est-ce qu'il y avait une forme d'excitation autour de Daniel Ricciardo depuis jeudi?
Oui, forcément, avec Pierre Gasly aussi, il faut le dire,
on y reviendra
deux grosses annonces
évidemment
pendant l'été. Mais oui, Daniel Ricciardo qui a été accueilli, toutes les caméras ont été tournées forcément vers lui, les photographes aussi. Alors c'est une nouvelle qui a été très mal accueillie, hein, il faut le dire, hein, chez Red Bull, on ne s'y attendait absolument pas. On pensait que Daniel Ricciardo allait signer, donc je ne dirais pas qu'il n'est plus en odeur de sainteté dans son équipe, il ne faut pas aller trop loin, mais en tout cas, on se préoccupe encore moins de ses performances par rapport à celle de Max Verstappen, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Max Verstappen était déjà le leader, mais maintenant qu'on sait que Daniel Ricciardo va partir chez Renault, Daniel Ricciardo va s'adonner à tester toutes les pièces pour Max Verstappen et il va être cantonné à un rôle de numéro 2.
Daniel Ricciardo qui a quand même déjà deux victoires à son compteur, hein, cette saison, c'était en Chine et à Monaco. On va l'écouter tout de suite au micro de Lucas Vinoy.
Nous avons pris la piste en pensant que le début de séance serait le moment où il était possible de réaliser les meilleurs chronos avant que la piste ne soit trop mouillée. Mais le problème, c'est qu'elle a séché en fin de séance. Nous n'avions tout simplement plus assez d'essence. Ce n'était pas de pire en pire comme nous l'espérions, mais de mieux en mieux. C'est vraiment dommage, mais bon, j'ai été lent tout le week-end. Je ne sais pas trop pourquoi, parfois plus de 5 dixièmes derrière. C'est vraiment étrange. Nous avons changé les réglages, mais le résultat était toujours le même.
Jean-Luc, c'est vrai que l'annonce date un petit peu maintenant, mais on a envie de t'entendre sur ce transfert de Ricciardo chez Renault. Est-ce que c'est le bon choix pour l'écurie française?
Alors oui, pour l'écurie française, c'est un très joli coup, évidemment, quand on arrive à attirer un vainqueur de Grand Prix, puisqu'on rappelle que ça n'est pas le cas de Nico Hülkenberg, hein, pour le moment, et ça n'était pas le cas de Carlos Sainz Jr., ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'un potentiel champion du monde de Formule 1, et oui, il faut le dire, parce que c'est le calibre de Ricciardo, est attiré par l'équipe française. Alors, je crois qu'il le sait, Ricciardo, d'ailleurs, Cyril Abitbol et toute l'équipe ont été très clairs, il ne sera pas champion du monde l'an prochain, mais c'est un contrat, ils l'ont dit, à plutôt long terme. Moi, je vois bien un contrat de 3 ans, très probablement, qui permettra à l'équipe française de travailler dans la durée. C'est une recrue. Encore une fois, c'est un type qui est un leader, qui est charismatique, qui est sympa. Ouais. Tu le connais aussi très bien. Qui est un type ouvert, qui est un type qui a pas la langue de bois. Bref, il en faudrait 20 comme ça en Formule 1. Non, mais c'est vrai parce que c'est un type qui travaille et qui est peut-être pas coté.
Et
parce
qui attaque en piste.
Oui. Et puis en course, il a pas son pareil. Il exploite toutes les faiblesses des autres. Lui, il ne commet pas d'erreur. Tu l'as dit. Il a remporté 2 grands prix cette saison. Et moi je dis que si chez Red Bull on commet l'erreur effectivement de considérer que maintenant Ricardo, alors qu'il est devant au championnat du monde, c'est ça le paradoxe, c'est lui qui a rapporté le plus de points à cause de ses deux victoires, bah c'est une erreur coupable et c'est mesquin et c'est sournois, et je le dis carrément aussi pour l'équipe britannique en fait, hein, on sait bien qu'elle est britannique, elle a nationalité autrichienne mais elle est britannique.
Hamilton, Kings,
bah c'est pas bien du tout parce que Daniel Ricciardo, il mérite le respect jusqu'au bout. Et puis sait-on ce qui peut se passer en course, effectivement, peut-être que c'est lui qui va l'emporter ce Grand Prix de... parce que il a pas son pareil, hein. S'il y a des conditions compliquées, tu vas voir, et difficiles, contrairement à Verstappen, lui il ne commet pas d'erreur.
En tout cas, c'est une belle cote pour un podium. La prochaine équipe de Daniel Ricciardo, Renault, aura quand même des difficultés cet après-midi à se mettre en lumière dans la mesure où Carlos Sainz partira 14e et Nico Hülkenberg qui a été pénalisé partira dernier. Dans un instant, la suite de Motors, on s'intéresse à nos Français, il y en a deux dans le top 5 et on ne va pas bouder notre plaisir. À tout de suite.
RMC Motors. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Motors, en direct jusqu'à 14h, vous aurez alors rendez-vous avec l'intégral sport au programme, notamment la suite de la troisième journée de Ligue 1, la fin de la première journée de Top 14, et bien sûr le Grand Prix de Belgique à 15h10, un Grand Prix, on le retrouvera des Français, tout en haut de la grille.
RMC, Motors, le French's Corner.
Jean Lecroix, une Marseillaise.
Oui,
une Marseillaise. A-t-on une toute petite chance d'entendre une Marseillaise tout à l'heure ?
Oui, Louis Amar. J'espère qu'ils ne l'ont pas oublié parce qu'effectivement, ça remonte à Monaco 1996.
Avec sous la pluie,
Olivier
déjà.
Olivier Panis, déjà sous la pluie, déjà des conditions météo très difficiles. Puis on sait ce qu'est Monaco avec un pilote qui était parti 14e sur la grille, donc évidemment avec un pilote qui part 3e. Non, sincèrement, c'est pas pour survendre le Grand Prix, mais c'est possible. Alors sur le sec, très difficile quand même, hein, soyons clairs, parce que si Hamilton ou Vettel et Vettel ne commettent pas d'erreur et leur équipe non plus, c'est impossible à la régulière. En revanche, sur le mouillé, tout peut arriver. Puis on sait qu'Esteban excelle sur le mouillé, c'est des conditions qu'il apprécie particulièrement. Et puis il faudra une équipe réactive et il n'a rien à perdre, Esteban Ocon, au départ de ce Grand Prix. Il n'a même pas de baquet assuré pour le moment. Bon, il sera en Formule 1, comme
on va
l'évoquer tout à l'heure. Il sera en Formule 1, mais il n'a pas de baquet assuré, à la surprise générale, y compris celle de Lewis Hamilton. Donc je pense qu'ils vont tenter des coups et je pense que ça va être une course magnifique.
On va l'écouter justement, Esteban Ocon, à l'issue de la qualif d'hier. Esteban Ocon qui partira 3e tout à l'heure sur la grille du Grand Prix de Belgique. On l'écoute.
Vraiment, vraiment content d'être P3 aujourd'hui. C'est sûr que c'était inespéré, mais on avait une bonne vitesse depuis le début du week-end. On s'est qualifié en Q3. On a réussi à faire le maximum avec la voiture qu'on avait sur des conditions difficiles où je suis sorti presque avec les intermédiaires, avec les slicks. Je suis resté. On a fait le mauvais choix. Et jusqu'à la fin, on y a cru. Et aujourd'hui, on arrive à faire P3. Et ça fait deux fois de suite qu'il pleut en qualif et que je suis 3e. Donc, c'est top.
Lucas Vinoy est avec nous en direct de Spa-Francorchamps. Lucas, évidemment, on reviendra dans une seconde et assez longuement sur la situation contractuelle difficile d'Esteban Ocon. Mais au plan sportif, on entendait son sourire il y a quelques instants. C'est un Ocon heureux que tu as trouvé hier en zone mixte, j'imagine.
Il était ravi, il allait pour la première fois de sa vie à la conférence FIA d'après qualification qui permet aux trois premiers de s'exprimer devant la presse. Rendez-vous compte, il était avec Sébastien Vettel, 4 fois champion du monde, Lewis Hamilton, 4 fois champion du monde, 8 titres de champion du monde à ses côtés pour Esteban Ocon qui est jeune, qui, comme tu le disais, a une situation difficile. Donc oui, elle tombe à point nommé, cette troisième place, une troisième place qu'il ne doit qu'à lui-même et à son pilotage.
Alors, on va y aller pour sa situation difficile, on va l'expliquer clairement. Son équipe Force India s'appelle désormais Racing Point Force India. Pourquoi a-t-elle changé de nom ? Parce qu'elle a été rachetée. Rachetée par qui ? Par un milliardaire canadien du nom de Lawrence Stroll, qui n'est d'autre que le père de son fils, finalement. Son fils, c'est Lance Stroll, pilote Williams, qui pilote un tracteur depuis quelques mois avec une voiture qui a vraiment des difficultés. Ouais. Le risque pour Esteban Ocon, c'est donc que le papa va y mettre son fils dans une meilleure voiture. Est-ce que c'est clair, Jean-Luc ?
C'est très clair, Louis. C'est même pas un risque, c'est une certitude. Tout le monde le sait pertinemment. Alors là aussi, on l'évoquait également des grandes gueules tout à l'heure. Est-ce que c'est étonnant ? Est-ce que c'est écœurant ? Bon, il n'est pas tout seul, Lawrence Stroll. Il a également un conglomérat de financiers internationaux autour de lui, parce que c'est quand même pour lui, c'est quand même beaucoup d'argent, racheter une équipe de Formule 1. Donc d'ailleurs, le statut de Force India Racing Point, mais le nom va changer. Hein, oui. De toute façon, pour 2019, on repart d'une feuille blanche. Il y aura un nouveau nom pour cette équipe. Alors est-ce que Lance Stroll va piloter ? Oui, c'est clair. Pour qui sera le deuxième bac à 99,99% pour Sergio Pérez, puisque c'est le pilote mexicain et ses annonceurs qui ont fait exploser la situation, puisque ses annonceurs apportaient de l'argent et lui, Pérez, n'était pas payé et d'autres prestataires non plus, notamment Mercedes qui fournit les moteurs. Donc c'est lui qui a appuyé sur le bouton avec ses annonceurs et c'est lui qui a permis la reprise de l'équipe. Donc c'est évident, et d'ailleurs il l'a dit, il l'a pas caché, j'ai un contrat en poche, évidemment que les deux baquets seront pris. Donc le problème d'Esteban Ocon, c'est où ira-t-il? Il est dans le giron de Mercedes, je vais pas tout dire d'un coup pour laisser un peu de place à Lucas. Donc évidemment que Toto Wolff, qui a les yeux de chimène pour lui, ne le lâchera pas, il aura un baquet. Maintenant on peut évoquer les deux ou trois possibilités, parce qu'on peut le prêter également à d'autres équipes pour qu'il reste en Formule 1 et qu'il continue à parfaire son expérience.
Lucas, est-ce que le paddock bruisse d'un éventuel changement de pilote chez Force India dès la semaine prochaine à Monza pour le Grand Prix d'Italie?
C'est une possibilité. Hein. On a eu beaucoup de surprises. Daniel Ricciardo a signé chez Renault et personne ne s'y attendait, pas même Red Bull. Donc on pourrait avoir un jeu de chaises musicales qui pourrait donc s'enclencher dès le prochain Grand Prix la semaine prochaine à Monza. Alors il faut parler bien évidemment au conditionnel, c'est-à-dire que Lance Stroll prendrait la place d'Esteban Ocon chez Force India. Esteban Ocon prendrait la place, lui, de Stoffel Vandoorne chez McLaren. Et ce serait Robert Kubica qui remplacerait Lance Stroll, lui, chez Williams. Donc voilà, un jeu de chaises musicales pourrait s'organiser, s'enclencher dès la semaine prochaine, mais c'est à prendre au conditionnel et ça dépend bien évidemment de beaucoup de facteurs dont on ne détient pas les tenants et les aboutissants.
Alors Esteban Ocon est-il inquiet de sa situation précaire? Voici sa réponse au micro de Lucas Vinois.
Je sais pas, tant qu'il y a des rumeurs, tant qu'il y a rien d'officiel, de toute façon, ça sert à rien de commenter là-dessus. Tout va très vite en Formule 1 et tout peut changer très vite. Faut pas s'en faire. Je suis dans une très bonne position quand même. Je suis soutenu et les gens qui sont derrière moi et Toto qui est un grand patron, voilà, dans la F1, il me soutient à 200%. Et tout le management de Mercedes me soutient à 200%. Donc, je suis dans une très bonne position pour être dans cette position-là, tout seul. Et là, oui, je devrais m'inquiéter. Mais, honnêtement, tout va bien et voilà, j'ai confiance en eux.
Jean-Luc, est-ce qu'il y a un petit peu de méthode Coué dans cette réponse d'Esteban Ocon ou le crois-tu sincère?
Je le crois sincère, absolument. Et d'ailleurs, il est capable, dès qu'il est assis dans le baquet de sa monoplace, de débrancher, d'oublier tous les problèmes collatéraux. Alors effectivement, surtout si le switch s'opère très rapidement, comme il en est peut-être question... En Formule 1, c'est toujours un peu compliqué. Tout est possible. On peut remplacer des pilotes. Est-ce qu'on le fera dès Monza? Peut-être un tout petit peu plus tard dans la saison.
Singapour, Monza, peut-être.
Oui, peut-être Singapour, voilà. Mais bon, on peut le faire. Alors, où se retrouverait effectivement potentiellement Esteban Ocon? Je comprends que ça le soucie. Là, il est lié à cette équipe et il se bat. Encore une fois, il obtient d'excellents résultats, la preuve, pour cette équipe. Donc, il n'a pas à se faire de soucis. Il sera en Formule 1 dans la meilleure équipe possible. Alors effectivement, ce switch avec chez McLaren Renault serait étonnant. On sait qu'il y a déjà Carlos Sainz Jr. qui est arrivé, qui a remplacé aujourd'hui Alonso, on le sait, puisque Alonso, et c'est une énorme perte pour la Formule 1, quitte la Formule 1 vraisemblablement pour partir vers l'IndyCar et l'Endurance, où il est déjà avec Toyota. Donc ce serait une possibilité, l'autre étant qu'il aille évidemment chez Williams aussi, et puisque Williams est motorisé par Mercedes. Oui. Et on sait qu'à la faveur évidemment d'un petit aménagement de facture moteur, Williams est en difficulté, bah évidemment il aura un baquet, Esteban Ocon, ça c'est certain.
En tout cas, il y en a un qui peut se réjouir de cet éventuel changement, c'est Sergio Perez, qui se retrouverait quand même avec Lance Stroll comme équipier, autant dire un pilote largement plus à sa portée qu'Esteban Ocon. Un mot, Lucas, tu nous racontais tout à l'heure que Esteban Ocon avait eu hier les honneurs de la conférence de presse FIA entre Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. 8 titres de champion du monde l'entouraient, 2 quadruples champions du monde, Lucas, qui sont venus à son secours, à sa rescousse quasiment.
À sa rescousse et au secours même de la Formule 1 en général, oui. Hein, qui ont dit que ça serait plutôt, ce serait une honte, tout simplement, hein, une honte. Ils n'ont pas mâché leurs mots de qu'Esteban Ocon n'ait tout simplement pas de baquet l'année prochaine et que le fait que l'argent prenne le pas sur tout en Formule 1, ce n'était pas bon pour la discipline, pas bon pour le sport. On a senti même Lewis Hamilton presque remonté, déçu de du tournant que prend son sport. Il disait Esteban Ocon est quand même bien entouré, j'espère que ça va bien se passer pour lui. Et c'est vrai que parfois Hamilton fait un petit peu le show, mais là on le sentait vraiment sincère, le quadruple champion du monde britannique.
Et on peut être sûr que les propos d'Hamilton sont remontés tranquillement jusqu'à son patron aussi, hein, Toto Wolff. Oui. On sait que si Hamilton juge important d'un point de vue stratégique pour l'ensemble de l'équipe qu'Esteban Ocon reste et trouve un baquet, son souhait sera vraisemblablement exaucé.
Oui, puisqu'on sait qu'effectivement le leader d'une équipe, et indubitablement c'est lui le leader, d'ailleurs Toto Wolff l'a dit, dit de manière un petit peu maladroite, ça a un peu évidemment froissé son équipier, mais ça fait partie du sport. Et il faut un leader quand la bataille est sévère comme celle-là. Et on a compris que, même s'il le dit pas clairement, mais à la limite, Hamilton appellerait de ses voeux le fait qu'Ocon le rejoigne
quasiment
dans l'équipe de pointe et où il pourrait le former. Il y a plus de 10 ans d'écart entre les deux hommes, donc ça pourrait être effectivement une succession intelligente. Donc je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et les propos de Lewis Hamilton pèsent très lourd positivement sur la carrière d'Esteban Ocon.
Esteban Ocon, troisième, donc sur la deuxième ligne du Grand Prix de Belgique, dont le départ, je vous le rappelle, sera donné tout à l'heure à 15h10. On suivra cela évidemment en direct sur RMC. En cinquième position, Jean-Luc, un autre Français, et oui, Romain Grosjean, qui lui aussi a réussi à tirer profit de conditions de qualification difficiles.
Oui, c'est une très belle performance. Hein. Ils se battent comme toujours très très près avec son équipier qui marque un petit peu le pas là. Romain, quand il est capable sur un tour comme ça de tout mettre ensemble, c'est vraiment l'expression. La voiture était rapide, on l'avait vu également sur le sec. Elle dispose d'une excellente motorisation Ferrari avec tout le train arrière. Donc elle dispose d'une excellente vitesse de pointe et Romain est capable sur ce tracé qu'il a déjà réussi dans le passé, donc de tout mettre ensemble. Donc c'est un formidable résultat pour lui. Maintenant, il va falloir concrétiser en course et derrière, il y a du lourd. Hein. Il n'y a rien moins que Raikkonen, Verstappen et Ricardo. Donc, je pense qu'il faudra qu'il surveille ses rétroviseurs. Mais bon, là, le boulot est fait et c'est superbe de partir cinquième.
On va l'écouter justement, Romain Grosjean, au micro de Lucas.
C'était une qualif surprenante avec la pluie qui arrivait enfin, un peu comme à Budapest en Q2. Donc, je savais pas trop quoi attendre sur les pneus inter, parce qu'on n'avait pas été extraordinaire sur la dernière qualif. Mais bon, là, on a fait un bon tour. C'est sûr qu'en regardant à droite, à gauche, on peut toujours dire, deux dixièmes, trois dixièmes, j'aurais pu aller les chercher pour prendre la troisième place sur la grille. Maintenant, je pense que tout le monde était sur des conditions difficiles. Après, le positif, c'est que la voiture était très rapide sur le sec aussi. Elle a les bonnes sensations. On a bien redressé la barre par rapport à hier. Et donc, ça, c'est positif pour demain.
Lucas, Romain Grosjean, il a connu un début de saison extrêmement difficile. Il a mis très longtemps avant de gratter des points. Il a fallu attendre le Grand Prix d'Autriche pour qu'il signe ses premiers points. Est-ce que tu sens une forme de redressement, y compris dans l'attitude du Français depuis la reprise à Spa?
C'est vrai qu'il traînait un petit peu son spleen hein, dans le paddock à un moment, Romain Grosjean. Et puis tu le sais autant que moi, tu l'as vu toi à cette période. Ouais, ça va mieux, forcément ça va mieux. Il est plus souriant, il bombe le torse entre guillemets maintenant, Romain Grosjean. Il se sent surtout libéré depuis qu'il a marqué ses premiers points. Il y avait un poids psychologiquement, ça a été très difficile. Il a été moqué aussi au moment de son accident à Bakou. Ça a été des moments compliqués à vivre pour Romain Grosjean. Et maintenant ça va beaucoup mieux, on sent qu'il délivre son plein potentiel. C'est un pilote rapide, il l'a toujours été, Romain Grosjean. Maintenant, comme le disait Jean-Luc, il faut tout mettre dans l'ordre, secteur 1, 2, 3, essayer d'éviter les erreurs en course, mais en tout cas maintenant ça va mieux, et surtout qu'il faut que ça aille mieux pour lui, puisqu'on le sait, Romain Grosjean n'a pour l'instant, comme Esteban Ocon, pas de volant pour l'année prochaine.
Et c'est le moment de se mettre en lumière justement pour Romain Grosjean, Jean-Luc, sur un tracé qu'il aime bien.
Oui, c'est le moment où jamais, alors on rappelle aussi, enfin ça lui plaira peut-être pas, mais c'est la vie, son erreur coupable
et
au
oui,
départ de
en
ce
2012.
Grand Prix, et oui, où il avait failli blesser grièvement Fernando Alonso.
Et il avait été suspendu pour un Grand Prix,
suspendu pour le Grand Prix à Monza, ce qui est rarissime. Bref, il a brillé aussi, donc là il faut qu'il mette tout ensemble. Alors c'est vrai que j'imagine que chez Haas on est en train d'étudier les perspectives, d'habitude on fixe un petit peu le jeu pendant cette silly season, on y est encore. Évidemment, il n'a qu'une possibilité, Romain Grosjean, soyons clairs, c'est As ou rien.
Exactement.
Donc, évidemment que son équipier, a priori, va rester, parce que lui, il fait le boulot, et puis il a plus de deux fois plus de points que lui, hein, et il a marqué très régulièrement, il est solide maintenant, même si on a appris qu'il avait des problèmes de management également, Kevin Magnussen, mais bon, ça c'est en dehors de la piste, mais il faut souhaiter pour Romain Grosjean qu'il puisse conserver son baquet. Ça se joue maintenant, c'est clair, entre là et les deux grands prix à venir.
C'est à Spa que Romain Grosjean avait signé son dernier podium en carrière il y a 3 ans. C'est aussi le dernier podium d'un Français dans un Grand Prix de Formule 1. Pierre Gasly, lui, montera peut-être vite sur un podium. Il partira 10e tout à l'heure, Pierre Gasly. Pourquoi est-ce que je dis qu'il montera vite sur un podium? Parce qu'on va y revenir aussi longuement. C'est l'un des transferts de l'été. Il sera chez Red Bull pour la saison prochaine, récupérant le baquet de Daniel Ricciardo. D'abord, écoutons Pierre Gasly sur la qualification d'hier et évidemment sur la pluie qui était l'invité surprise et le passage obligé de tous les pilotes en zone mixte.
Il y a moins de différence entre les voitures, donc c'est sûr que ça aurait été bien pour nous. Après, non, honnêtement, je suis vraiment satisfait de la qualif. On savait que ça allait être compliqué, on pensait pas être aussi proche du top 10. Donc maintenant, il va falloir se concentrer sur demain et faire une bonne course.
Il sera donc 10e tout à l'heure, Pierre Gasly. Lucas, comment Pierre Gasly est-il arrivé à Spa-Francorchamps? Entouré de caméras, entouré de photographes, est-ce que c'était lui l'homme du week-end?
Oui, oui, il y avait une sacrée effervescence hein, autour de Pierre Gasly jeudi quand il a franchi les portiques du paddock. Une quinzaine de personnes qui se sont massées autour de lui pour bien évidemment avoir ses premières réactions, les premiers clichés, les premières images du nouveau pilote Red Bull. Alors ce sera effectif à partir de 2019. Il était ravi aux anges, hein, une promotion extrêmement rapide. Il la mérite, c'est vrai, même s'il la doit un petit peu à Daniel Ricciardo qui a voilà créé la surprise en partant chez Renault. D'ailleurs, Daniel Ricciardo n'a pas oublié de lui faire remarquer. Il a dit à Pierre Gasly en conférence de presse jeudi, tu me dois un verre pour me remercier.
Et c'est pas le dernier sur les verres, Daniel Ricciardo, par parenthèse.
ou la chaussure.
Oui, ou la chaussure, oui, exactement. Moins bien. Le fameux chewy, vous savez que lorsqu'il signe un podium, Daniel Ricciardo a pour habitude de mettre un petit
victoire.
Peu de champagne.
Victoire.
Ou une victoire, ouais. A pour habitude de mettre du champagne dans sa chaussure, de boire à la chaussure, de faire boire aussi certains de ses ingés.
Diversement.
Ouais,
ou ses adversaires qui refusent
qui refusent en général, surtout Lewis Hamilton. Jean-Luc, c'est une promotion formidable pour Pierre Gasly sur une Red Bull. Une voiture qui peut être championne du monde.
Tu sais, je cite souvent ce mot de Napoléon, tu vas me dire, mais où il va là? Parce qu'on lui parlait d'un jeune général, tu sais, à l'époque des guerres napoléoniennes, qui avait beaucoup de succès, et on le vante, on vante ses mérites, etc. Et puis à la fin, Napoléon dit, oui, mais a-t-il de la chance? Eh bien, il en faut de la chance, toujours. Il faut du talent, il faut de la réussite, mais il faut de la chance, être au bon endroit, au bon moment. Et là, on peut dire que le départ surprise de Daniel Ricciardo, qui part chez Renault, donc qui est effectivement là aussi incroyable, parce que c'est une équipe pour le moment de milieu gris. C'est pas offensant, on se bat pas pour la victoire alors que chez Red Bull, oui, eh bien ça libère une place et c'était le mieux placé. D'ailleurs, moi je l'avais dit sur l'antenne tout de suite, de toute façon, par rapport à Carlos Sainz qui était encore dans le giron de Red Bull mais qui avait été prêté, on le sait bien, à Renault et qui était déjà pas en très bon terme avec Verstappen, et ça compte puisque Verstappen est clairement le number one maintenant. Eh bien Verstappen préférait avoir Pierre Gasly à ses côtés avec qui il s'entend très bien. C'est un pur produit de la filière et ça c'est extrêmement important. Il n'en est pas sorti, bien sûr, jusque là. Donc c'est le candidat idéal maintenant à 22 ans à Pierre de se retrouver, mais il a la tête solide hein, ça se voit à son attitude, ça se voit à son body language comme on dit, ça se voit à son regard, ça se voit à ses propos. Écoute, il a une chance extraordinaire dans un premier temps déjà de devenir vainqueur de Grand Prix très vite quand il aura cette machine qui, j'espère, même avec le moteur Honda, parce qu'on rappelle qu'évidemment il y aura le moteur Honda, et je pense que ça a participé à la réflexion également des responsables de chez Red Bull, puisqu'il a l'expérience avec les ingénieurs depuis cette année avec Toro Rosso. Donc le moteur Honda arrive chez Red Bull, avoir un pilote qui les connaît bien déjà depuis un an, c'est un facteur majeur.
Et parce que Pierre Gasly est extrêmement populaire au Japon, tu verras ça Lucas lorsque tu te rendras à Suzuka dans quelques semaines, pour avoir couru en Super Formula avec Honda, où il avait obtenu de bons résultats. Il avait été privé d'un titre qu'il pouvait aller chercher à la dernière course à cause de conditions météo qui avaient empêché
la Grand Prix d'Angleterre,
de
MotoGP.
On en parlera dans une dizaine de minutes avec Benoît Boutron dans Radio Paddock. Lucas, évidemment, il y a le timing, il y a la chance dont parlait Jean-Luc pour Pierre Gasly, mais c'est aussi la récompense d'une grande constance depuis quasiment un an qu'il est en Formule 1, avec beaucoup de sûreté dans son pilotage et parfois des coups d'éclat.
C'est un pilote qui ne fait tout simplement pas d'erreur, Pierre Gasly, et quand il y a une opportunité, il sait la saisir. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands pilotes. Lorsqu'ils sont dans une monoplace avec laquelle ils ne peuvent pas gagner, ils sont là pour prendre des points. On se rappelle de son magnifique résultat au Grand Prix de Bahreïn où il avait pris la quatrième place. C'était le cas aussi de Sébastien Vettel quand il était chez Toro Rosso.
Oui,
vous vous rappelez, sous la pluie, il avait réussi à remporter le seul Grand Prix où en fait il était en position justement d'aller chercher la victoire. C'est à ça qu'on reconnaît la marque peut-être des grands, et c'est la raison pour laquelle Red Bull a été le chercher.
Et on va l'écouter, Pierre Gasly, raconter son embauche chez Red Bull. À ton micro, Lucas.
Les choses vont très vite. Après, j'ai toujours cru qu'en faisant les bonnes choses, en continuant de travailler, en essayant de toujours me remettre en question pour m'améliorer, que voilà, un jour ça allait venir dans mon sens. Ça a été le cas la saison dernière quand j'ai eu mon opportunité chez Toro Rosso, et puis ensuite voilà, j'ai continué de travailler, tout donner. Et c'est beaucoup de sacrifices, de travail. Cette décision, c'est pas que ce qui vient de se passer sur les 6-7 derniers mois. Ça remonte à bien longtemps, les débuts en karting, et voilà, c'est une manière de travailler, tous les efforts qui ont été faits, l'environnement, les personnes qui m'ont aidé pour en arriver là. Et aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes-là que j'ai cette opportunité pour l'année prochaine.
Et le meilleur témoin de la qualité de Pierre Gasly, Jean-Luc, c'est le classement général provisoire du championnat du monde qui est très éloquent.
Et voilà, à un moment, il faut en revenir aux fondamentaux. Et effectivement, on a le tir groupé des Français. Esteban Ocon est 12e avec 29 points. Juste derrière, on a Pierre Gasly, 26 points. Et ensuite, Romain Grosjean avec 21. Donc, c'est dire qu'avec sa modeste, on le rappelle, Toro Rosso à moteur Honda, ben, il réalise une saison formidable en marquant des gros points dès que l'occasion s'en présente. Ah, si la pluie veut bien venir à Spa. ou bien à Monza. Puisqu'on sait que les Toro Rosso, première victoire de Vettel, sous la pluie, sous le déluge, à Monza. Donc il peut avoir sa chance avant même la fin de la saison.
Ocon partira 3e, Grosjean 5e, Pierre Gasly 10e, 3 Français dans le top 10, et un 4e ou un demi-4e, il faut quand même à chaque fois le préciser.
Oh, c'est pas un demi.
Charles Leclerc, il est monégasque de passeport de nationalité, allez, un peu français de cœur quand même. Il a encore signé une très belle qualification hier sur sa modeste Sauber. Jean-Luc, il partira 12e cet après-midi, Charles Leclerc.
Écoute, il a créé l'exploit pendant les séances d'essai libre, puisqu'il était dans le top 10 très régulièrement. Je crois que sa meilleure perf, ça doit être 7e, là c'est de mémoire, mais il était vraiment rapide avec cette monoplace. Alors certes, elle a là aussi le moteur Ferrari et le train arrière de la Ferrari, bien sûr, puisque Sauber est là aussi l'équipe junior, comme la Haas, donc sur le plan mécanique on est pareil, mais on sait très bien qu'en termes de moyens, et malgré tous les efforts de Fred Vasseur qui est aux commandes de cette équipe, bah, il faudra un petit peu de temps pour la faire évoluer favorablement. Donc après c'est le pilote qui fait la différence, et Charles Leclerc, c'est pareil, il est de la même race, j'allais dire, qu'Ocon et Gasly, c'est-à-dire c'est vraiment des types qui sont très talentueux, qui commettent très peu, voire pas d'erreurs, qui gardent la tête froide en toutes circonstances, et qui sont capables d'exploiter, et avec une telle jeunesse, l'effet de course. Donc là encore, s'il pleut, si les circonstances le veulent, si on est malin en termes de stratégie chez Sauber, tout peut arriver de manière favorable pour Charles, dont on espère et dont on dit, là aussi, pour l'avenir, bah, si Ferrari osait chez Ferrari.
Parfait, la transition est toute trouvée. J'allais me tourner vers toi, Lucas, justement, pour te parler de la saison prochaine de Charles Leclerc. On sait que c'est un membre de la Ferrari Drivers Academy, qu'il a du soutien à la Scuderia. Est-ce qu'on peut le voir en rouge dès la saison prochaine?
C'était une hypothèse qui prenait de plus en plus de crédit il y a quelques mois. Malheureusement, aujourd'hui, on se tourne plutôt vers une reconduction de contrat de Kimi Raikkonen.
Jusqu'à
vous savez, Sergio Marchionne est décédé. Il voulait voir Charles Leclerc, lui, dans la monoplace, dans la Ferrari. Et puis, bah voilà, Kimi Raikkonen, qui est proche de certaines personnes qui ont du pouvoir, en tout cas chez Ferrari, il devrait donc re-signer. Peut-être que ce sera annoncé dès Monza la saison prochaine, mais c'est vrai que Kimi Raikkonen n'a plus remporté de Grand Prix depuis l'Australie, c'était en 2013, rendez-vous compte, et pourtant lui il est dans une monoplace normalement qui lui permet de remporter des Grands Prix. À chaque fois on se dit c'est la dernière saison de Raikkonen, et à chaque fois il remplit pour un
Charles
an, on parle peut-être même d'une prolongation de contrat de 2 ans, rendez-vous compte pour Kimi Raikkonen, ouais. donc voilà, bon, en tout cas on verra ça peut-être dès Monza la semaine prochaine.
Et il faut le dire, on n'a rien contre Kimi,
Bah,
c'est-à-dire qu'il faut promouvoir les jeunes quand on le peut. Alors déjà, j'ose le dire, chez Ferrari, on a raté Jules Bianchi, malheureusement. Faut pas rater Charles Leclerc. Je veux dire que Charles, il a un talent indéniable. Alors bien sûr qu'on va améliorer l'équipe Sauber et qu'il fera mieux. Mais là, je pense que si on signait pour 2 ans Raikkonen, pour moi, bah, ce serait non seulement regrettable et dommage, mais ce serait peut-être malheureusement ne pas donner à Charles toutes les chances et surtout la monoplace qu'il mérite dès aujourd'hui.
13h45 sur RMC. Merci Lucas Vinois.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Absolument. 15h10 pour le départ de ce Grand Prix qu'on suivra en direct en intégralité sur RMC, la radio de la F1. Hamilton en pôle, 4 Français dans le top 12. Dans un instant, de la moto, de l'endurance et de l'IndyCar. Du rallye, pardon, et de l'IndyCar au programme de Radio Paddock. À tout de suite dans Motors.
RMC Motors. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h49, Motors avec Jean-Luc Roy, on est en direct jusqu'à 14h. Je vous rappelle l'événement de l'après-midi, le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Départ à 15h10 et à suivre sur RMC. Mais il n'y a pas que la F1 dans la vie.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Toutes les infos de la semaine et du week-end avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Lucho, salut Jean-Luc, salut à tous.
Salut Benoît, salut à tous.
On commence avec le MotoGP, le Grand Prix de Grande-Bretagne devait avoir lieu à midi et demi et on l'attend toujours.
Quel week-end en tout cas pour le MotoGP, la Moto 2 et la Moto 3 à Silverstone. Effectivement, des problèmes de météo depuis plusieurs jours, notamment hier. On a eu cette triste nouvelle avec la fracture de la jambe de Tito Rabat en qualification. Elles ont été très compliquées, ces qualifications. Pourquoi ? Parce qu'il pleut sur Silverstone depuis deux jours maintenant et le problème c'est que le circuit a été resurfacé, sauf que l'eau ne s'écoule plus. C'est une vraie mare en fait, ce circuit de Silverstone. Et évidemment, quand on a quatre roues, c'est dangereux, mais alors quand on a deux roues, c'est encore plus dangereux et ça complique les conditions de course. On a tout fait pour que le Grand Prix ait lieu. On a avancé l'horaire qui le Grand Prix devait partir à 12h30, sauf qu'il pleut toujours en Grande-Bretagne. Et là, il y a vraiment des questions de sécurité qui se posent.
Jean-Luc, on resurface une piste en Angleterre et on pense pas à la pluie et au drainage.
Non mais écoute, c'est le paradoxe anglais. Nos amis britanniques, tu sais, qui aiment bien mettre des pierres dans notre jardin, moins arroser que le leur.
Un peu de jardin dans leur pierre.
Et bah exactement. Là, on peut mettre le paquet parce que c'est inadmissible. Même, j'ose dire, maintenant il y a des revêtements drainants où on pense légèrement à la pente de la piste pour vider. Et là, c'est vrai que quand on observe, c'est pas très radiophonique, mais les images, on comprend bien. Et les pilotes moto, tu sais, ce ne sont pas des danseuses. Hein. Ils sont courageux, ils ont l'habitude de rouler dans toutes les conditions, mais là, ça n'est pas praticable à l'évidence. Donc, malheureusement, ce Grand Prix risque d'être peut-être annulé ou reporté, je ne sais quoi, si inédié.
J'ai écouté un petit peu les réactions du monde de du MotoGP sur le diffuseur Eurosport, donc en France. Réaction de Loris Baz, qui lui, a la chance de disputer ce Grand Prix.
Ouais.
Il voulait absolument courir. Il a dit, moi, ça me dérange pas de courir sous la pluie. En revanche,
il aime bien ça.
Exactement. Il adore la pluie. Il est très bon sous la pluie, le grand Loris Baz. En revanche, il y a eu une réunion qui s'est tenue entre les différentes écuries. La plupart des écuries sont contre le fait de courir ce Grand Prix. Et ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, il n'aura pas lieu demain, puisque deux constructeurs s'y sont opposés. Honda et Suzuki, donc soit il se court aujourd'hui, soit le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne est annulé.
Et il y a une fenêtre jusqu'à 18h,
c'est ça ? 18h, exactement.
Évidemment, si ce Grand Prix Moto de Grande-Bretagne a lieu dans l'après-midi, on suivra ça avec toi, Benoît, dans l'Intégral Sport. Jean-Luc, ça arrive souvent, des reports de courses comme ça, ou des annulations pures et simples ?
C'est très très rare. Écoute, là, il faudrait se plonger effectivement dans les archives, mais à moto, dans une période récente, je n'ai pas ce souvenir-là. Même, on va dire, du côté de la Malaisie, où il y a la mousson, parfois, on peut avoir des horaires aménagés, effectivement, on peut avoir des reports, ce qui est logique. Et là, ils avaient bien réagi, les organisateurs, en l'avançant, en disant, on va essayer de passer avant que le déluge ne tombe. Non, mais l'erreur, on en revient au tracé, c'est anormal qu'en Grande-Bretagne, où il pleut un peu plus que en France, eh bien, on n'est pas prévu ce cas de figure et on n'est pas testé le revêtement et on n'est pas mieux amélioré l'évacuation de l'eau. Voilà, tout simplement. Alors, on a vu que la séance qualif s'est terminée un petit peu comme en F1, mais à l'inverse, avec une piste allant, ça s'échant. Oui. Il y a aussi le talent des pilotes qui ont repassé les slicks et donc ça a été un petit peu la roulette russe. Toujours pareil, le meilleur tour. Et Zarco s'en était vachement bien sorti. Hein. C'est dommage qu'on le voit pas à l'affaire derrière Lorenzo et Dovizioso, les deux Ducati. Il était en première ligne. Il est en première ligne si ce Grand Prix se joue. Mais bon, là, je pense qu'il y a une erreur quand même de conception. Et pour les gens qui ont réalisé ce revêtement, c'est quand même pas normal. Voilà.
On rappelle que Marc Marquez est en tête du classement général provisoire devant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Johann Zarco, le Français, est en 7e position. On enchaîne, Benoît, avec de l'IndyCar et le Grand Prix de Madison.
Et oui, c'est notre feuilleton tout au long de la saison. L'IndyCar, évidemment, avec nos deux pilotes français qu'on apprécie beaucoup à RMC, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais. Hier soir, c'était le circuit nocturne de Madison, l'antépénultième course de la saison et la victoire de l'Australien Will Power sur Penske. Sa troisième victoire de la saison, ça relance un petit peu le championnat. Bonne nouvelle pour Pagenaud, justement, qui termine quatrième. Un peu plus compliqué pour Sébastien Bourdais qui lui a dû abandonner dès le premier tour. Mais Pagenaud, une quatrième place, c'est Jean-Luc. Pas mal. Il n'a pas pu lutter pour le titre cette saison, mais il a été quand même dans les places d'honneur assez régulièrement.
Et oui, il a eu un début de saison très difficile avec sa Penske. Pourtant, vous le savez, c'est la meilleure équipe. Hein, c'est l'équipe de Will Power également. Donc, ils sont quatre au volant des Penske. Et malheureusement, Simon n'a pas trouvé la problématique. Moi, j'ai pu en parler avec lui à plusieurs reprises. Bizarrement, on rappelle qu'il a décroché le titre en IndyCar en 2016, donc c'est un champion IndyCar. Et là, Simon n'avait pas trouvé la manière de bien régler. Pourtant, il y a beaucoup d'échanges au sein de cette équipe Penske. Là, ça y est, ça va beaucoup mieux. Ben, la preuve en est que on a d'ailleurs donné le départ de cette épreuve dans l'ordre du classement, parce que là aussi, on n'a pas pu jouer les qualifications normalement à cause, encore une fois, de la météo sur cet ovale à la forme un petit peu particulière. En fait, c'est pas un vrai ovale tel qu'on l'entend à Indianapolis ou autre. C'est un ovale un peu refermé d'un côté. C'est pas les quatre courbes sont pas exactement les mêmes, mais bon, Sébastien Bourdais, pour parler de l'autre français, avait été brillant avec son équipe Delcoin Racing en essai libre. Il avait même signé le troisième temps et malheureusement, je crois qu'il a pas marqué de points.
Et juste, on reste dans l'IndyCar, on va vous donner des nouvelles du pilote canadien Robert Vickens. Il a été victime d'un terrible accident au Grand Prix de Pocono il y a une semaine. Il respire à nouveau sans assistance respiratoire et il a pu parler à ses proches, heureusement, mais on vous rappelle ce drame, donc l'état de santé de ce pilote qui est inquiétant. Il a été opéré à plusieurs reprises, notamment pour insérer plusieurs broches en titane dans sa colonne vertébrale, consolider plusieurs fractures des jambes. On est inquiet pour lui. Bon, ça, a priori, sa vie n'est plus en danger, mais on surveillera son état de santé. C'est sa première saison en IndyCar.
Bah, il faut rappeler que le sport mécanique est dangereux et que là, ce sont des ovales à très haute vitesse. Ils sont accrochés à deux voitures et lui a volé dans les grillages. Les dispositifs de sécurité présents en IndyCar ont joué leur rôle, mais quand on est à 300, 330 km/h, bah voilà.
Benoît, on termine Radio Paddock avec des nouvelles de Sébastien Ogier.
Exactement. C'est l'annonce de la semaine. Sébastien Ogier, vous le savez, il se pose beaucoup de questions pour la saison prochaine. Il est toujours chez M Sport pour la fin de cette année 2018. Trois possibilités pour Sébastien Ogier, il l'a déclaré cette semaine à la presse. Trois possibilités. La première, prolonger chez M Sport. La deuxième, signer un an chez Citroën. Ou la troisième, arrêter dès la fin de cette année 2018. Quoi qu'il arrive, Ogier arrêtera sa carrière de pilote de rallye à la fin de l'année 2019.
Jean-Luc, tu as une minute pour nous expliquer quel est le bon choix pour Sébastien Ogier. Une minute.
Bah déjà, j'espère qu'il va rouler parce que ce serait terrible de pas voir Sébastien continuer avec Julien Ingrassia. Tous les deux, ils constituent un équipage formidable. Et puis la lutte n'est pas perdue hein, pour le titre de champion du monde cette année. Donc avec cette équipe Ford M Sport. Alors, moi, je pense, même si l'offre de Citroën doit être très alléchante, que Sébastien, c'est un fidèle aussi. Il va certainement privilégier, s'il a quelques assurances de Ford, d'avoir une évolution du matériel. Il va, pour sa dernière année, comme tu viens de le dire, je pense que tout tenter avec Citroën pour, évidemment, ce serait être aussi champion du monde avec un troisième constructeur différent, ce qui n'est jamais arrivé. Carrément jamais arrivé. Donc, je sais pas ce qu'il va tenter. J'espère qu'il restera Ford ou Citroën. Mais je pense que chez Citroën, là, on a dû faire un gros chèque à la clé. On est prêt à faire un gros chèque à la clé.
Tu as tenu le défi 50 secondes, c'est magnifique. Merci Benoît Boutron.
Merci à vous.
Merci Jean-Luc.
Merci à Louis, merci à toi Louis. Bah écoute, on va s'amuser toute la saison.
Toute la saison, rendez-vous 15h10 évidemment.